autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Nicolas Benita à la réalisation, pour nous demander comment faire avec les algorithmes, puisqu'on ne peut plus faire sans aujourd'hui, omniprésents, hyper puissants, mais pas hyper intelligents. Comment faire pour que les algorithmes ne disent pas n'importe quoi et ne nous fassent pas faire n'importe quoi? Et si plus que de l'intelligence artificielle, c'était de la bêtise naturelle des algorithmes dont il fallait se méfier? Je cite notre invité, le professeur Rachid Gheraoui, spécialiste mondial de l'algorithmique répartie, cette nouvelle science des réseaux informatiques qu'il développe à l'EPFL, l'école polytechnique de Lausanne en Suisse, professeur invité au Collège de France l'année 2019, algorithme à la recherche de l'universalité perdue. C'était le joli titre de sa leçon inaugurale, très inspiré par les mathématiciens altruistes, comme il les appelle, qui l'ont précédé, Dal Khwarizmi, l'inventeur des algorithmes, à Alan Turing. Rachid Gheraoui partage avec nous ses pistes d'inspiration, d'interrogation et de recherche. Autour de la question, peut-on faire confiance aux algorithmes? Bienvenue sur RFI, en partenariat avec le Collège de France.
Cher Rachid Gheraoui, vous êtes le 10e professeur élu à cette chaire informatique et sciences numériques. Votre parcours est prestigieux et diversifié. Il n'y a visiblement pas que l'algorithmique qui est réparti.
C'est pour moi un grand plaisir d'introduire Rachid Gheraoui, professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, on l'a dit. Rachid est un des plus grands experts mondiaux de l'algorithmique réparti, sujet majeur mais encore pas tellement abordé ici au Collège de France. Partons donc avec Rachid à la recherche de la calculabilité perdue et à celle de nouveaux algorithmes répartis, espèce pas du tout en voie de disparition.
Bonjour Rachid Gheraoui.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de la RTS, la radio-télévision suisse à Lausanne, en Suisse, où vous êtes professeur à l'EPFL, donc l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où vous dirigez le laboratoire de calcul distribué, car comme viennent de le rappeler les professeurs du collège Alain Prochian et Gérard Béret en introduction de votre leçon inaugurale, vous êtes le spécialiste mondial internationalement reconnu de l'algorithmique répartie, une science des réseaux informatiques en plein développement et pour cause, car il s'agit face à l'hyperpuissance, à l'omniprésence, à la rapidité de nos algorithmes, de nos supercalculateurs, de les empêcher de faire de très grosses bêtises. Ils sont si bêtes que ça, ces algorithmes. Vous dites vous-même, hein, Rachid Gheraoui, que c'est de leur bêtise naturelle dont il faudrait avoir peur, plus que de leur intelligence artificielle.
Disons que les algorithmes sont partout, il n'y a pas besoin d'être sorcier pour le savoir, et puis on a tendance à avoir peur de leurs exploits, d'être disons très étonné de ce qu'ils arrivent à faire, mais on oublie parfois qu'ils peuvent faire parfois de grandes bêtises, tout simplement parce que, rappelons-nous, un ordinateur c'est quelqu'un ou une chose particulièrement idiote qui arrive à refaire la même chose plusieurs fois sans en mesurer les conséquences et parfois en déviant de manière significative du but qu'on lui a fixé. Donc c'est cette bêtise que j'appellerais naturelle dans le sens où elle est presque, qui fait partie presque de l'essence même de l'algorithmique moderne, est quelque chose qui devrait faire peur, oui.
Et pourquoi ça devrait faire peur aujourd'hui? Parce qu'en fait, ça c'est amplifié par quoi? Par leur puissance, par leur omniprésence, par leur nombre?
Alors, amplifié par deux choses, leur puissance, évidemment, ils sont de plus en plus puissants, donc quand ils font une bêtise, ils la font très vite et disons très fort, dans le sens où il y a beaucoup d'ordinateurs impliqués. Et par ailleurs, le fait qu'on a mis des ordinateurs en réseau, on a peut-être sous-estimé le fait que, à l'instar peut-être des êtres humains, ils n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord. Et ça peut aussi avoir des conséquences dramatiques. Donc, aussi bien la puissance que le nombre sont des sources de bêtises algorithmiques.
Alors avant d'en arriver à ces bêtises algorithmiques et surtout aux pistes hein, que vous recherchez pour échapper à leurs bêtises justement, pour échapper à leurs bêtises qui n'étaient pas, enfin qui est peut-être intrinsèque à ces machines, mais qui n'étaient pas pensées comme ça au départ par Turing, hein, qui est le premier qui a inventé l'ordinateur, mais le tout premier, puisque vous remontez dans votre leçon inaugurale jusqu'à tous ces mathématiciens et algorithmiciens altruistes, comme vous dites, le tout premier qui a donné son nom aux algorithmes, c'est Al-Khwarizmi, algorithmie, hein, Mohamed de son prénom.
Absolument, disons, il est très probable que depuis la nuit des temps, les êtres humains essayent de calculer. Mais il y a eu une génération de mathématiciens, on les appellerait aujourd'hui des algorithmiciens, qui ne sont pas contentés de calculer et de résoudre des problèmes, mais qui ont aussi proposé au commun des mortels des recettes lui permettant, lui aussi, sans forcément être un grand mathématicien, de résoudre des problèmes. C'est dans ce sens-là que je parle de mathématiciens altruistes pour désigner les mathématiciens qui ont fait l'effort de proposer des recettes au commun des mortels. Et évidemment, plus tard, on s'est dit, si n'importe qui pouvait résoudre des problèmes difficiles en appliquant ces recettes, eh bien, pourquoi pas ne pas les faire faire, les faire exécuter par des machines. On est donc arrivé à l'informatique à partir de mathématiciens altruistes qu'on appellera aujourd'hui des algorithmiciens.
Des algorithmiciens, alors bien plus près de nous, hein, c'est Alan Turing, le premier, disons, de ces algorithmiciens altruistes, le père de nos ordinateurs. En 1936, il propose une machine universelle capable d'exécuter tous les algorithmes possibles et imaginables. C'est ça, capable de tout calculer.
Alors absolument, parce que Alan Turing n'est pas le premier à faire exécuter des algorithmes par des machines. Pascal avait fait ça avant, Leibniz, d'autres. Mais le génie d'Alan Turing a été d'imaginer qu'on pouvait entrer dans une machine, non pas hard-coder ou câbler, entrer l'algorithme qu'elle devait exécuter. Et du coup, on a pu faire des machines qui étaient presque vierges et leur apprendre au fur et à mesure les algorithmes qu'elle devait exécuter et arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui les machines universelles de Turing, qui est le modèle de toutes nos machines aujourd'hui, donc des machines qui peuvent à la fois faire des calculs, calculer aller sur Internet, nous permettre d'écrire des lettres, etc. Donc des machines universelles datent d'Alan Turing.
Et en même temps, votre leçon inaugurale, Rachid Guerraoui, s'intitulait « À la recherche de l'universalité perdue ». Pourquoi est-ce qu'on a perdu cette universalité des premières machines de Turing ?
Alors, la première machine de Turing était une machine qui exécutait un algorithme à la fois, et Alan Turing a émis la conjecture qu'elle pouvait exécuter tous les algorithmes possibles et imaginables, ce qui a été prouvé empiriquement par ailleurs. Ensuite, on a voulu aller plus vite. Et Alan Turing, d'ailleurs, est le premier. Et il a mis des machines ensemble pour décrypter les codes Enigma. Puis plus tard, pour des raisons de sécurité, etc., on a commencé à construire des réseaux informatiques, aussi bien sur Internet à large échelle, qu'à l'intérieur même de nos machines, on trouve plusieurs processeurs. Donc on est allé vers une informatique distribuée ou une algorithmique distribuée. Et on n'a pas beaucoup réalisé au début, mais en faisant cela, on a introduit une forme d'incohérence parce que ces ordinateurs-là n'arrivent pas à se mettre d'accord et il y a des problèmes qu'ils n'arrivent plus à résoudre. Donc on a perdu l'universalité en essayant d'aller plus vite, de mettre des ordinateurs ensemble.
Autour de la question comment peut-on faire confiance aux algorithmes et comment surtout retrouver l'universalité perdue de la machine de Turing, je propose Rachid Guerraoui de nous arrêter précisément sur cette machine de Turing avec la pièce de théâtre du même nom qui remporte un grand succès actuellement au Théâtre Michel à Paris et qui retrace le terrible destin de ce chercheur altruiste, comme vous dites, qui a donc construit la première machine pensante qui a brisé, vous l'avez dit également, le code secret de l'énigme allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Condamné au secret par les services secrets britanniques, Turing s'est suicidé en croquant une pomme empoisonnée, la pomme d'Apple peut-être, après avoir été condamné à la castration chimique pour homosexualité. Bande-annonce de cette pièce à ne pas rater.
Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing ?
Je construis une machine. Une machine capable de calculer, mais aussi de réfléchir, de lire ou de faire de la musique.
Ah ouais, un jukebox. Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre.
Est-ce qu'une machine peut penser ?
Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches, on ne sait pas bien quoi, seul, dans ton coin.
Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle ?
Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence, même artificielle ? Vous voulez réagir, Rachid Guerraoui, à cet extrait de la pièce « La machine de Turing » ?
Deux petites réactions. Alan Turing est quelqu'un d'extraordinaire par ce qu'il a réalisé du point de vue scientifique, mais si on creuse un peu dans sa vie, on s'aperçoit aussi qu'il est extraordinaire par ailleurs. C'est quelqu'un qui a failli se qualifier au marathon, qui a eu toutes les misères du monde, etc. Et je conseille à tous les auditeurs de se pencher un peu sur la vie de cet homme-là qui est assez extraordinaire. La deuxième réaction, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, je sais que les médias parlent beaucoup de ce mot-là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. J'ai envie de définir l'intelligence artificielle comme un algorithme qui fait faire à une machine quelque chose qu'on pensait réservé à l'être humain. Et Pascal, déjà, en calculant, en faisant une machine qui calculait, avait quelque part fâché l'Église qui imaginait que le calcul était réservé à l'être humain. Donc l'Église avait quelque part combattu ces machines. Et puis plus tard, quand on a réussi à battre les êtres humains aux échecs, on a dit c'est de l'intelligence artificielle parce que c'est réservé aux êtres humains. Donc l'intelligence artificielle est une notion très relative à une époque. Aujourd'hui, on trouve les machines très intelligentes parce qu'elles pourraient conduire à notre place. Mais en fait,
c'est un jugement qu'on porte, c'est ça. Vous dites qu'au fond, finalement, même d'ailleurs, parler d'intelligence ou de bêtise, ça n'a pas tellement de sens, finalement. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de calcul, de puissance de calcul et de capacité à apprendre. Quand même, on parle de machine learning aujourd'hui, de machines qui apprennent.
Absolument, même si la notion d'apprendre, on la retrouve même chez Alan Turing, qui a conçu cette machine, qui apprenait les algorithmes. Mais effectivement, c'est un jugement sur quelque chose qui nous surprend. Et puis comme on aime imaginer que nous sommes l'être suprême sur Terre, ou peut-être dans l'univers, dès qu'on fait quelque chose qui nous ressemble, on dit « Ah, c'est de l'intelligence ».
Mais ça ne vous fait pas peur à vous, c'est pas ça le problème. Vous dites qu'aujourd'hui, pour les informaticiens que vous êtes, le problème c'est pas cette intelligence artificielle qui nous dépasserait ou qui prendrait le pouvoir. Pas encore en tout cas.
Disons que je pense que ce que j'appelle la bêtise naturelle, c'est-à-dire que les problèmes que peut faire un réseau d'informatique par erreur est beaucoup plus dangereux que ce qu'il pourrait faire, disons, par intelligence.
Ah, voilà toute la différence. Alors autour de la question, peut-on faire confiance à l'intelligence ou à la bêtise des algorithmes, sur cette question donc des bêtises, des erreurs, des bugs informatiques, je propose, Rachid Guerraoui, d'écouter un autre spécialiste que vous connaissez bien, le professeur Gérard Berry du Collège de France, qui a créé cette chaire informatique et sciences numériques dont vous avez été le professeur toute cette année et qui vous a appelé d'ailleurs au Collège de France. On écoute ce formidable traqueur de bugs, Gérard Berry.
Le bug, c'est une conséquence de la bêtise de l'ordinateur, c'est-à-dire la bêtise. La bêtise est un mot anthropomorphique, l'ordinateur n'est pas anthropomorphique. Enfin, c'est de la régularité de tout ce qu'il fait. Donc, c'est jamais une erreur d'ordinateur, un bug, c'est une erreur humaine, c'est l'erreur de celui qui a écrit le programme, qui fait la chose qu'il faut pas. Et comme l'ordinateur fait exactement ce qu'on lui dit avec une conscience professionnelle absolue, ce qui n'est pas le cas d'un homme, il va exécuter cette erreur jusqu'à ce que toutes les conséquences en soient tirées, qu'elles soient aussi bêtes que possible, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas d'humour derrière, il n'y a pas de sensibilité. Et donc, le bug, ça peut faire qu'une fusée crache en vol, qu'une voiture freine pas, ça peut être extrêmement sérieux. Il y a beaucoup de bugs. Dans les applis de téléphone, il y a des bugs partout. Mais on s'en fiche, quoi. Bon, le téléphone s'arrête.
Mais c'est pas une fatalité, les bugs. C'est non, ça que c'est vous dites aussi fatalité. En tant qu'informaticien.
Voilà, c'est une fatalité quand on fait de l'informatique naïvement. Mais quand on fait de l'informatique scientifiquement, c'est pas une fatalité. On travaille beaucoup sur les méthodes qui permettent de traquer les bugs, c'est-à-dire de les détecter avant que les programmes fonctionnent et pas après. On peut pas le faire sur tout, on peut le faire de mieux en mieux, et ça rejoint des questions fondamentales sur le langage humain aussi, sur la logique. C'est-à-dire, il faut pouvoir comprendre qu'est-ce qui va se passer dans toutes les exécutions possibles d'un programme. C'est-à-dire que si on n'apprend pas l'informatique, on écrit des programmes à l'arrache, et puis ils sont pleins de bugs. À l'arrache est vraiment le bon mot, hein. Et si on comprend l'informatique scientifique, eh ben, il y a d'autres méthodes pour le faire. C'est plus long, c'est plus cher, ça demande plus de formation, mais quand on est assis dans la voiture, c'est quand même mieux.
C'est quand même mieux, Rachid Guerraoui, et c'est ce sur quoi vous travaillez. Alors, quelles difficultés pour justement prévenir les bugs, les bêtises de ces ordinateurs, d'autant plus fortes que ces ordinateurs sont reliés et sont en réseau, hein, c'est ça ?
Absolument, et en réagissant à ce que vient de dire Gérard Berry, il parlait de la difficulté de parcourir ou d'évaluer tous les états par lesquels va passer un ordinateur pour pouvoir dire « attention, cet état est dangereux », etc. Aujourd'hui, avec la puissance des ordinateurs, il est tout simplement impossible pour un être humain de dire « dans tel cas, l'ordinateur va faire ceci, dans tel autre cas, il va faire cela, attention, ça c'est dangereux ». Il y a trop de cas possibles, c'est ce qui fait la force des ordinateurs, c'est ce qui leur permet de détecter un cancer beaucoup plus rapidement que n'importe quelle équipe de dermatos, mais c'est aussi qui rend la chose compliquée parce qu'on n'arrive pas à suivre, l'être humain n'arrive pas à suivre.
Et c'est ça qui peut faire peur d'ailleurs aux êtres humains que nous sommes. Hein.
Absolument, c'est ça qui peut faire peur. Alors il y a deux tendances qui se dégagent. Une qui consiste à vérifier les ordinateurs par d'autres ordinateurs qui peuvent aller eux vérifier plein d'états possibles. Mais évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe si le deuxième, si le vérificateur part en vrille?
Donc ça,
c'est un problème. Et puis la deuxième, disons, tendance consiste à essayer d'imaginer des modèles mathématiques qui vont nous permettre de résumer les activités d'un ordinateur et puis de pouvoir prouver mathématiquement que rien de mauvais ne peut se produire. Alors évidemment, ici, le problème, c'est que le modèle mathématique n'est jamais le strict équivalent de ce que fait vraiment un ordinateur. Donc on reste à un niveau d'abstraction qui, parfois, est un petit peu loin de la réalité.
C'est-à-dire que l'ordinateur, il prend quoi? Il ne prend pas des libertés avec les algorithmes ou la formule mathématique qui a été introduite? Il y a une marge de hasard. Enfin, ce n'est pas du hasard. Enfin, mais comment est-ce qu'on peut dire ça?
Alors, très, très bonne remarque. Il ne prend pas de liberté, mais parfois, il y a deux éléments de réponse. Parfois, on lui dit d'accomplir la tâche A. Pour nous, la tâche A est claire, mais on sous-estime le fait que pour lui, accomplir la tâche A passe par accomplir une autre tâche B qu'on n'a pas prévue. Et celle-là, on n'a pas du tout envie qu'il la fasse. Et pour lui, c'est la meilleure stratégie. Et c'est pour ça que les choses sont compliquées. Par ailleurs, quand bien même on fait un algorithme qui est très bien, tout est bien testé, etc., on va le mettre sur un ensemble d'ordinateurs. Et parfois, il suffit que l'un de ces ordinateurs subisse un court-circuit ou qu'il y ait un délai de communication ou un problème physique qu'on n'a pas prévu. Et tout peut aller malheureusement très mal, etc. Donc, il y a pas mal de soucis qu'il faut, disons, auxquels il faut se préparer quand on met un algorithme en production.
Quelque chose que vous prenez en compte aujourd'hui, sur lequel vous travaillez, mais qu'on a quoi, un peu oublié ou un peu mis de côté? C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'algorithmique répartie ou distribuée.
Le malheur, c'est que on teste, ça marche bien, puis on se dit ça va marcher. Mais évidemment, comment on peut pas tout tester tous les cas? Quand il y a un grand ensemble d'ordinateurs, le nombre de cas est ce nombre explose, parfois de manière exponentielle. On ne peut pas tout vérifier. Et comme parfois les gens sont soumis à pression, comme a dit tout à l'heure Gérard Berry, ils sont à l'arrache, eh bien, on vérifie pas tout, on bricole, on relie les ordinateurs ensemble et on ne réalise pas que peut-être que les ordinateurs, les uns sans les autres, marchent bien, mais quand on les met ensemble, on rajoute d'autres cas, on rajoute un réseau, on rajoute des incertitudes et ça ne marche pas toujours très bien. Donc,
Il faut avoir un coup d'avance,
absolument. Mon domaine de recherche consiste à dire, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une nouvelle forme d'algorithme qui vont être plus robustes dans le sens où, même si ce réseau part en vrille, même si cette machine ne fonctionne pas bien, même s'il y a ceci, cela, on va quand même arriver à assurer un bon résultat, ou du moins, on ne fera rien de mauvais. Au pire des cas, on s'arrêtera. On n'aura pas de réponse, mais on ne fera rien de mauvais.
Donc, c'est là-dessus que vous travaillez.
Voilà, c'est là-dessus que je travaille, en essayant de prouver mathématiquement qu'on peut quand même souvent prouver que l'ordinateur, au pire, s'arrêtera. Alors, ce n'est pas toujours satisfaisant qu'il s'arrête, parce que si on attend une réponse pour que l'ordinateur nous dise, en cas de brouillard, il faut aller au-dessus ou en dessous pour un avion, on a envie qu'il réponde. Mais parfois, il vaut mieux qu'il ne réponde pas et puis que le pilote prenne la main, plutôt qu'ils disent n'importe quoi.
Autour de la question comment faire confiance aux algorithmes, m'est avis qu'on peut vous faire confiance à vous, Rachid Guéraoui, pour nous faire passer cette science de l'algorithmique répartie jusque dans nos ordinateurs. Vous qui êtes, vous aussi, un informaticien, un chercheur altruiste et particulièrement brillant, on revient sur votre parcours juste après avoir écouté votre choix musical, universel lui aussi. Vous avez choisi, Rachid, d'écouter Mon pays, ma guitare, de la diva algérienne Lynn Monti, formidable chanteuse, un peu oubliée, juive algérienne, symbole d'un Maghreb multiculturel, a retrouvé lui aussi Lynn Monti sur RFI.
Autour de la question.
Chante, chante ma guitare, renne, renne, le bladé, parler à mon âme s'égare et mon cœur sombre dans l'ennui. Le chemin qui nous sépare tout à coup se raccourcit quand le storbar de ma guitare vient me parler de l'Algérie. Mon pays, vu naître. J'ai dû partir.
Mon pays, ma guitare, la formidable chanteuse juive algérienne Lynn Monti sur RFI. Pourquoi ce très joli choix, Rachid Gharaoui ?
Bon, c'est un choix, disons, multidimensionnel. Mm-hmm. D'une part, j'aime beaucoup sa voix. Mm-hmm. Par ailleurs, je trouve qu'elle représente assez bien un espèce de multiculturalisme qui existe et qui a surtout existé au Maghreb. Moi, mm-hmm. je suis assez allergique aux identités qui peuvent être meurtrières, comme dit Amine Malouf, mais d'autant plus que parfois, elles ne sont pas de vraies identités. Je prends l'exemple de Lynn Monti, qui est quelqu'un... Le nom Lynn Monti, je pense, c'était sur son passeport français, parce que le système français de l'époque considérait les juifs algériens et maghrébins comme automatiquement français, et les distinguait des musulmans, qui eux étaient souvent plus récemment, qui étaient venus plus tard que les juifs sur le Grand Maghreb, mais qui étaient eux pas français. Donc il y avait ce nom, Lynn Monti, qui était sur le passeport français. Son nom de scène, c'était, je crois, Leila Fateh ou un truc comme ça, parce que ses musiques, ses chansons ont été composées par Farid Latrache, par des Égyptiens. Et son vrai nom était Eliane Sarfati. Et je trouve que ce mélange représente un peu ce qu'était ou ce qu'aurait dû être, de mon point de vue, le Maghreb, si ces identités meurtrières, très encouragées parfois par le système colonialiste de l'époque, n'avaient pas soufflé sur les braises pour faire quitter au Maghreb ces gens-là et puis ne pas garder une espèce de multiculturalisme qui faisait, je pense, qui est le propre de beaucoup d'endroits dans le monde.
On pourrait dire à la recherche de l'universalité ou à la recherche du multiculturalisme perdu. Vous considérez vous-même, vous êtes né au Maroc, Rachid Gharaoui, vous avez mené des brillantes études en mathématiques, vous vous considérez comme maghrébin ?
On dit qu'on est de là où on a grandi, donc j'ai grandi jusqu'à 17 ans au Maroc, donc je me considère marocain, maghrébin, et puis bien entendu suisse, français.
Et oui, et plus encore, parce que après vos études donc brillantes en mathématiques puis en informatique, vous êtes passé par Orsay, le CEA à Paris, le MIT à Boston, Palo Alto en Californie, vous êtes aujourd'hui à l'EPFL à Lausanne, où vous dirigez le laboratoire de calcul distribué, invité au Collège de France. Pourquoi avoir choisi justement l'EPFL à Lausanne, d'où vous nous parlez aujourd'hui ?
Alors c'est un concours de circonstances. J'avais fini mon doctorat en France et puis en regardant les postes proposés, j'ai rencontré un professeur, André Schipper, qui m'avait invité à l'École Polytechnique de Lausanne, m'offrir un poste de post-doctorat. Et puis je me suis beaucoup plu là-bas. Et puis je pense que c'était une bonne pioche parce que en quelques décennies, l'École Polytechnique de Lausanne est devenue une des institutions les plus prestigieuses au monde, dans le monde. Domaine scientifique et en particulier en informatique. Donc je suis un coup de chance. Moi, j'attribue beaucoup de choses à la chance et le PFL en fut une.
Le coup de chance, les rencontres, parce que je crois que vous vouliez être footballeur plus jeune, c'est ça ? Et pas vraiment informaticien.
Oui, c'était ça. Mon rêve était le football. Donc les équipes locales des villes marocaines d'où je venais, mes parents n'étaient pas de cet avis-là. Puis je pense que j'aurais pas fait une très grande carrière au football.
Par contre, vous poursuivez donc vos recherches en toute liberté, hein, c'est ça, au laboratoire de l'EPFL. Vous dirigez donc ce laboratoire de calcul distribué, c'est le calcul, mais c'est aussi, donc vous soulevez pas mal de questions autour des algorithmes, autour du calcul, mais pas seulement. Vous vous inquiétez aussi, non seulement de la bêtise naturelle des algorithmes, mais de leur consommation en énergie. Hein. Il y a d'autres recherches que vous menez sur cette question de la consommation extraordinairement importante de tous nos ordinateurs et de nos vies numériques en général.
Oui, c'est un problème très, très, disons, passionnant et inquiétant parce qu'aujourd'hui, les algorithmes ou les réseaux sociaux, Internet consomment énormément d'énergie. Donc moi, je me suis intéressé à ce qu'on appelle les cryptocurrencies en anglais, comme Bitcoin, donc les monnaies, excusez-moi, j'ai oublié la traduction.
Non, les bitcoins,
française.
Je crois qu'on dit bitcoin. Ça,
on dit bitcoin, oui, il n'y a pas un nom consacré pour les cryptocurrencies.
Écoutez, peut-être que nos amis québécois peut-être en ont un, mais nous, on dit bitcoin. Ça.
Le bitcoin. Alors, le bitcoin aujourd'hui.
La crypto-monnaie.
La crypto-monnaie, très bien, c'est parfait. Donc les crypto-monnaies aujourd'hui, pour la plupart, disons, consomment énormément d'énergie. On dit par exemple qu'aujourd'hui, les transactions de Bitcoin consomment la même énergie qu'un pays industrialisé comme le Danemark ou l'Autriche, c'est tout simplement effrayant. Donc à ce rythme-là, le problème de l'écologie sera avant tout un problème informatique. Et si on se penche sur ces algorithmes, les algorithmes qui sont sous-jacents à ce genre de technologie, on peut réaliser qu'en fait, il y a beaucoup de gâchis et on pourrait imaginer des algorithmes un peu plus frugaux qui consomment moins d'énergie, en particulier pour le Bitcoin ou des crypto-monnaies. C'est un peu les travaux que je mène en ce moment avec une partie de mon groupe.
Des algorithmes qui soient plus frugaux. La frugalité est déjà au niveau des algorithmes. Avant de vous laisser continuer sur ce sujet porteur, petit rappel des faits dans un petit extrait de ce documentaire « Cliquez, c'est pollué » diffusé sur France TV Éducation.
E-mail, réseaux sociaux, recherche d'informations, achats dématérialisés, séries en streaming, archivage de photos sur le cloud, jeux vidéo et musique en ligne. De big, le data est devenu géant. La preuve par ces chiffres vertigineux. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans le monde, en une heure, 8 à 10 milliards d'emails sont échangés et 180 millions de recherches sont effectuées sur Google. Au total, le secteur informatique représente aujourd'hui 7% de la consommation mondiale d'électricité. Si Internet était un pays, il serait le troisième plus grand consommateur au monde après la Chine et les États-Unis et avant la Russie. La pollution invisible générée par l'industrie du net et son impact sur le climat équivaudrait à celle du secteur de l'aviation. Or, le nombre d'utilisateurs ne cesse de croître. De 3 milliards aujourd'hui, il devrait passer à plus de 4 milliards d'ici à la fin de la décennie.
Il y a une vraie éducation à faire au niveau de cette consommation énergivore, complètement énergivore de nos ordinateurs. Vous travaillez, vous l'avez dit, Rachid Guerraoui, en amont finalement, à ce qu'il y ait des algorithmes qui permettent d'être moins énergivores.
Oui, absolument. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, je pense que l'éducation devrait aussi aller vers les gens, disons, qui sont très portés vers l'écologie et les faire réaliser qu'en fait, quand ils vont voir des vidéos sur YouTube, ça coûte presque autant que de prendre un avion. Je pense qu'il y a une éducation dans ce sens-là. Évidemment, il y a une autre éducation qui est en amont, qui consiste à concevoir des algorithmes en pensant tout de suite, non pas à leur performance, au nombre de millisecondes, en minimisant le nombre de millisecondes, mais aussi en minimiser l'énergie qu'ils vont consommer. Ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu regardé par les chercheurs, mais pas beaucoup. Et dans le contexte de l'algorithmique répartie sur un ensemble d'ordinateurs, c'est un problème qui n'est pas du tout trivial. Et on regarde ça. Il y a plusieurs équipes dans le monde qui regardent ce genre de choses. Et moi, je regarde ça avec mes collaborateurs dans le contexte des crypto-monnaies, parce que dans ces domaines-là, il y a eu une tendance à, quelque part, pour simplifier, montrer qu'on est honnête en brûlant énormément d'énergie.
C'est comme ça que ça fonctionne en fait, fait.
Exactement, dans le Bitcoin, les transactions financières sont ordonnées par des sites qui ont brûlé énormément d'énergie pour montrer quelque part qu'elles étaient honnêtes. Mais on le sait très bien, l'honnêteté n'est pas synonyme de puissance informatique ou de puissance tout court.
Et le cas se pose, la question se pose notamment sur le continent africain, hein, où sont beaucoup de nos auditeurs, où on pense parfois que les monnaies cryptées pourraient être une piste de sortie, notamment du franc CFA ou autre.
Absolument, je pense que tout comme le téléphone portable a conquis l'Afrique avant le téléphone fixe, absolument, sans passer par le téléphone fixe, on peut imaginer que des crypto-monnaies atteindront des endroits où aujourd'hui en Afrique, les gens n'ont même pas accès à une banque ou à un distributeur, etc. Et on peut imaginer que sur leur téléphone portable, ils pourraient manipuler peut-être pas une espèce de Africa Coin, où faudrait imaginer tout un système financier là-dessus qui pourrait peut-être accompagner les systèmes classiques, faut pas fâcher les banques.
Bien sûr.
Et là, il faudrait imaginer des algorithmes qui pourrait s'exécuter avec des moyens informatiques très simples, très, très modestes. Et c'est faisable, je pense que c'est faisable. Il y a encore du travail à faire, mais c'est quelque chose de l'ordre du faisable.
Vous imaginez, quand vous avez commencé vos recherches en informatique et en informatique distribuée, répartie, que vous traiteriez des questions pareilles, c'est-à-dire que vous s'éleveriez, si j'ose dire, des lièvres énormes comme cette bêtise des ordinateurs, qui sont donc pas du tout comme notre cerveau humain, comme cette consommation énorme d'énergie. Vous imaginez pouvoir poser le problème et puis essayer de le résoudre, parce que c'est ce que vous essayez de faire hein, quand même.
En fait, ce qui m'a, disons, conduit à faire de la recherche, j'étais un jeune étudiant à Paris, puis c'est un professeur, Jacques Pitrat, d'intelligence artificielle. Je pense qu'il doit être à la retraite, mais il fait toujours des conférences. Et sa vision, disons, avec beaucoup de recul sur l'humanité, m'a beaucoup plu. C'est presque ça qui m'a amené vers la recherche en informatique. Lui, il posait des questions du style, est-ce que l'intelligence est quelque chose de... Dans quelle mesure c'est inné? Dans quelle mesure c'est acquis? Et il essayait d'en déduire des choses sur les ordinateurs. Et je trouvais que cette dimension est une dimension, moi, qui m'a fasciné, et peut-être qu'on pourrait attirer un autre public vers la recherche informatique en commençant directement par cette dimension, plutôt qu'en leur demandant de programmer directement des jeux vidéo, etc. J'ai jamais joué à des jeux vidéo de ma vie. Ça n'a jamais été ça qui m'a amené vers l'informatique, mais plutôt des questions d'intelligence, presque des questions métaphysiques.
Et oui, c'est ça. Et au fond, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de chercheurs qui parlent de s'inspirer du cerveau pour les ordinateurs, mais c'est pas essayer de faire la même intelligence. Enfin, c'est pas là où ça se place. C'est essayer quoi, de comprendre que les machines, c'est pas un cerveau et c'est pas notre intelligence humaine, c'est autre chose. Il y a des choses qu'elles sont capables de faire et d'autres non, mais que c'est à nous de maîtriser tout ça. C'est nous qui tenons les rênes.
Alors pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est clairement nous qui tenons les rênes, sauf quand la machine s'emballe parce qu'on n'a pas prévu tel ou tel cas. Maintenant, je sais qu'il y a des gens très, très, très respectables qui parlent d'un avenir où ce seront les machines qui tiendraient les rênes. On a découvert des articles posthumes d'Alan Turing qui parle de cette crainte de machine qui tiendrait vraiment les rênes.
Ah déjà, il le pressentait.
Il le pressentait, mais il a quasiment tout pressenti, donc c'est pas surprenant.
Et vous pressentez quoi, justement? Vous pressentez que c'est pas le moment de se poser ces questions-là, mais que faudra peut-être se les poser un jour, ces questions d'intelligence artificielle, même si, on le rappelle, les ordinateurs sont bêtes au départ.
Alors, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je pense qu'il est très difficile d'arrêter telle ou telle recherche, d'autant plus qu'il y a des pays qui pourraient, s'asseoir sur toute législation, quelques législations que ce soit. Mais disons, je pense qu'il est important d'éduquer, y compris les informaticiens, pour quelque part les faire réaliser de l'enjeu de ce qu'ils font, des bugs qu'ils peuvent laisser traîner. Et peut-être imaginer une convention de Genève sur les algorithmes, même si on sait qu'elle pourrait ne pas être appliquée directement, mais au moins faire prendre conscience aux informaticiens et aux utilisateurs de l'informatique des enjeux.
Autour de la question qui nous occupe, peut-on faire confiance aux algorithmes? Je propose ensuite un nouvel éclairage, justement, en forme de question d'un autre passeur de science, l'ingénieur et chercheur Jérôme Boutan, qui vient de publier Les biais de l'esprit et qui était tout récemment notre invité. On l'écoute.
Oui, j'aurais une question à propos des algorithmes, pas tant sur la portée des algorithmes, mais sur la manière, d'après vous, avec laquelle nous devrions communiquer collectivement sur ce que font les algorithmes, leurs fonctions dans la société par rapport aux hommes, le rôle des hommes par rapport aux algorithmes, ce qu'ils remplacent, ce qu'ils ne remplacent pas. Et donc, de façon peut-être à déjouer des peurs et à éviter les fake news, surtout dans un monde Internet où les informations sont croissantes et un peu anarchiques, comment canaliser et comment promouvoir ou expliquer correctement les bienfaits, voire les écueils des algorithmes.
Est-ce que vous avez la réponse à cette question, Rachid Guéraoui?
Certainement pas. Je ne sais pas comment il faudrait communiquer, mais disons, j'ai une petite idée de ce qu'il ne faudrait pas faire. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a tendance à assimiler les algorithmes à la programmation. Donc, quand on veut enseigner le numérique ou l'informatique aux étudiants ou aux lycéens ou aux collégiens, on leur demande tout de suite de programmer. Or, je pense qu'il faudrait presque revenir au temps où on ne disposait pas de machines, mais on faisait quand même des algorithmes. Et ça permettrait peut-être d'enseigner ce que c'est que l'algorithmique et peut-être de mieux comprendre plus tard pourquoi est-ce que les machines font ceci ou cela.
C'est-à-dire d'enseigner l'algorithme comme un calcul, enfin comme une...
Comme un calcul abstrait, voilà. Voilà, et sans vouloir faire de la pub à mon institution, mais je vais le faire quand même, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, il y a un cours qui s'appelle, que j'appellerai ici la pensée algorithmique, qui est enseigné à tous les ingénieurs, quel que soit leur domaine, sans quasiment parler de programmation. On leur enseigne ce que c'est que réfléchir à un problème, le définir sous forme, le résoudre sous forme d'algorithme, sans toucher de machine, sans approcher de machine. Et on fait ça en première année, au premier semestre, avant même qu'ils aient programmé, pour qu'ils comprennent que nous sommes dans un monde où on sera, disons, quelque part, peut-être pas dirigé, mais accompagné par des machines. Mais voilà comment ce monde-là devrait être pensé au-delà de ces machines.
C'est ça, pour ne pas se laisser simplement calculer. Enfin, c'est ça, pour comprendre comment on est calculé et comprendre que c'est comme ça que ça se passe, disons.
Exactement, exactement. Parce que les langages informatiques ont tendance à nous distraire de ce qu'il y a vraiment de fondamental dans ce domaine et on oublie vraiment l'essentiel. Donc c'est une espèce de retour à l'essentiel de l'informatique qui sont les algorithmes avant les machines.
Et l'essentiel, c'est de savoir que c'est une pensée algorithme, c'est une manière de penser. Et si on comprend ça, on peut éviter certains écueils ou en tout cas comprendre un peu toutes ces machines qu'on utilise tout le temps, sans justement les comprendre.
Et exactement, je pense que comprendre par exemple la notion que j'appelle moi de mathématicien altruiste ou d'algorithmicien permet parfois de comprendre ce que c'est que les fake news ou comment est-ce qu'on peut rajouter une donnée qui va faire emballer une machine vers une direction qui n'est pas du tout prévue, etc. Et je persiste à penser que la meilleure manière de comprendre cela, c'est de s'affranchir de la machine et de jouer à ce jeu-là juste entre êtres humains.
Voilà donc un informaticien qui nous invite à laisser tomber nos machines et à commencer par retourner au calcul et à cette compréhension-là et à la pensée pour avancer. Alors pour continuer de nous interroger avec vous et de cette manière-là sur les algorithmes, Rachid Guerraoui, à la poursuite de l'universalité perdue, je propose maintenant une autre forme d'universalité musicale à l'écoute de Joey Homicile, formidable jazzman haïtien de Montréal, multi-instrumentiste, qui sera en concert ce vendredi au Théâtre des Abbesses à Paris et qui remonte aux racines africaines du jazz sur son dernier album Love Matters. Ça groove sur ce clip Mendelolo enregistré en Guinée en hommage au jazzman sud-africain Hugh Masekela.
Autour de la question.
Le multi-instrumentiste Joey Homicile sur RFI qui sera en concert ce vendredi 20 septembre au Théâtre des Abbesses à Paris. Extrait de son tout dernier album Love Matters. Ça vous plaît, Rachid Guerraoui?
Ah oui, c'est très joli. Je ne connaissais pas du tout. Merci de la découverte.
Autour de la question des algorithmes que vous cherchez donc à répartir, à distribuer en réseau pour les rendre moins bêtes, pour éviter les bugs, mais aussi que vous essayez de rendre plus frugaux, moins énergivores. Je résume très très grossièrement vos travaux. Rachid Guerraoui, on a compris qu'il n'était pas la peine d'apprendre tout de suite à coder, mais plutôt à se mettre être dans la pensée algorithmique à la recherche de l'universalité perdue. C'est le titre de votre leçon inaugurale au Collège de France. On pourrait aussi parler d'une sorte de quête de transdisciplinarité, puisque ces algorithmes sont partout et servent à toutes les disciplines. À ce sujet, le tout nouvel administrateur du Collège, le professeur Thomas Romer, titulaire de la chaire des milieux bibliques, décodeur hors pair de toutes les langues de la Bible, a une question pour vous.
Évidemment, les algorithmes, pour les sciences humaines, c'est toujours un peu compliqué, mais en même temps, on essaie quand même de les utiliser. Actuellement, nous avons, en collaboration avec l'Université Tel Aviv, un projet d'utiliser les algorithmes pour voir si c'est possible, en fait, de déterminer, grâce à ces techniques, différents mains qui auraient écrit ou qui auraient rédigé le texte biblique, parce que je donne certains textes qui, selon les théories, sont attribués à tel ou tel auteur. Et puis, avec les algorithmes, on essaie en effet de voir si c'est possible ou pas. Et apparemment, selon les premiers résultats, il y a une chance de pouvoir un peu appuyer les théories par cette technique. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Qu'en pensez-vous, Rachid Gheraoui ?
Disons, ça ne me surprend pas du tout que ce soit possible parce que, bon, d'une part, les frontières des algorithmes sont de plus en plus poussé. Et puis, il y a d'autres exemples. Par exemple, quelque chose qu'on pensait impossible, c'était de faire à des algorithmes des tableaux qui seraient des tableaux de maître, comme Rembrandt. Donc, une fois que des algorithmes ont vu un certain nombre de tableaux, ils ont pu reproduire un tableau qui était impossible de distinguer, même par des experts. Donc, c'est quelque chose qui va dans le même sens, de mon point de vue. Une fois qu'on a donné à des algorithmes des extraits de ce qu'aurait écrit Luc, Matthieu ou Marc, eh bien, ils pourraient dire, non, ce texte cela n'aurait jamais pu être écrit par Luc parce qu'il contredit tel ou tel pattern, tel ou tel charpente d'écriture, etc. On pourrait même imaginer des algorithmes qui viendraient avec un nouveau testament qui serait peut-être indistinguable des autres. Donc,
Jusqu'où justement peuvent nous entraîner les algorithmes ? Je rejoins une question d'un de nos auditeurs Dieudonné à Douala sur les réseaux sociaux, donc depuis le Cameroun. Quelles sont les limites d'application justement des algorithmes, Rachid Gheraoui ?
Je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite. Disons, Alain Turing, son premier travail a été de montrer que les algorithmes ne pouvaient pas tout faire. En particulier, ils ne pouvaient pas beaucoup raisonner sur eux-mêmes. Mais il se trouve qu'en faisant cela, il a aussi démontré que les êtres humains non plus ne pouvaient pas raisonner sur eux-mêmes de manière très, très complète. Donc, quelque part, les limites qu'on connaît aujourd'hui des ordinateurs sont presque les mêmes que les limites des êtres humains, d'un point de vue théorique. Maintenant, d'un point de vue pratique, on voit bien que les algorithmes savent faire une chose à la fois. On ne peut pas leur demander de jouer aux échecs, puis d'utiliser les stratégies qu'ils ont apprises aux échecs pour ensuite aller négocier des tapis à Marrakech. Pourtant, l'être humain peut faire ce genre de choses.
Il est capable de faire ça, absolument. Voilà, oui, c'est ça. Ils nous ont battus au jeu de Go, aux échecs, mais ça n'a rien à voir avec notre intelligence sensorielle multiple, très différente de celle des ordinateurs.
Voilà, donc cette intelligence multiple, pour l'instant, semble être une limite de ces algorithmes. Mais qui sait ? Encore une fois, on a tellement, on n'aurait rien parié sur les jeux d'échecs ou le jeu de Go, et puis on a été surpris. Donc, il n'est pas impossible qu'on arrive à quelque part lier non pas les ordinateurs, mais les algorithmes entre eux, pour leur permettre d'apprendre à gauche et d'appliquer à droite.
Pour le meilleur ou pour le pire, ça, on verra. En tout cas, il s'agit aujourd'hui de cohabiter ou de mieux travailler notre intelligence humaine avec l'intelligence artificielle ou la bêtise naturelle des algorithmes. C'est quand même ça aujourd'hui le but. Et vous cherchez aussi à comprendre du coup des phénomènes tout à fait naturels, comme la composition des bancs de poissons, des choses comme ça, avec les algorithmes.
Disons, peut-être que c'est très naïf et très biaisé, mais quand on voit par exemple dans un banc de poisson qu'il suffit qu'il y en ait un qui tourne à gauche pour éviter un prédateur et que tout le monde suit de manière incroyablement synchronisée, on se dit il y a un algorithme. Ils communiquent peut-être en se regardant du coin de l'œil, mais ils exécutent quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit dans des systèmes informatiques répartis.
Les poissons, les bancs de poissons, c'est ça, hein ?
Les poissons, les oiseaux.
Il y a des
oiseaux,
algorithmes derrière où on peut, les oiseaux en vol, une nuée d'oiseaux, on pourrait mettre des algorithmes dessus ou eux-mêmes se servent d'algorithmes ? Vous diriez ça comment ?
les recherches dans ce sens, c'est pas ma spécialité, mais les recherches dans ce sens consistent à essayer de comprendre quel algorithme pourrait être exécuté par ces oiseaux ou par ces poissons ou par, disons, quand on voit pareil des oiseaux allant dans un sens ou dans l'autre et tout de suite changer de direction, on a envie de penser qu'ils ont un moyen de se mettre d'accord. Ils ont des primitives de synchronisation qui sont très basiques parce qu'ils ne sont pas en train de s'envoyer des mails. Il y a des choses pas, très, très intéressantes qui se passent et peut-être qui nous permettraient de faire des réseaux plus fiables parce que ça semble assez fiable la manière avec laquelle ils se déplacent. Parfois, je prends toujours l'exemple de ce banc de poissons qui décide de passer par un petit trou pour échapper à un prédateur et les poissons ne se touchent pas et en général ne touchent pas le rocher qu'il y a autour de ce trou. Et on se dit que quelque part, c'est assez extraordinaire. Si on pouvait imaginer les algorithmes ou comprendre les algorithmes qu'il y a derrière, on pourrait faire des réseaux plus fiables, aussi fiables que ce beau mouvement de poissons.
Le monde est écrit en langage mathématique, hein, pour reprendre les mots de Galilée. Vous pensez ça quand même, enfin, on se rapproche de ça dans cette réflexion et dans cette recherche-là.
Je suis, disons, je dirais presque algorithmique, mais plutôt que mathématique.
Mais vision bon, algorithmique.
C'est peut-être une question de mode.
De mode algorithmique. Donc pour qu'on comprenne bien, vous nous dites c'est pas la peine d'avoir peur tout de suite de l'intelligence artificielle, hein, de l'intelligence des algorithmes. Ça viendra peut-être, hein, à nous de faire attention, à nous d'en être conscients, à nous de comprendre la pensée algorithmique dans son intelligence et dans sa bêtise. C'est un peu ça que vous nous dites.
Voilà, disons
et dans notre bêtise
que,
aussi.
Voilà, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, certes, fait peur, mais il y a un danger plus immédiat, ce sont ce qu'appelait Gérard Berry des bugs ou la bêtise naturelle des algorithmes, surtout quand ils sont ensemble, et aujourd'hui ils sont de plus en plus ensemble, parce que là, le nombre d'erreurs possibles, de malentendus et de déviances par rapport à un but originel est plus grand.
C'est quelque chose qui vous fait peur, Rachid Guerraoui, ou contre lequel vous travaillez, enfin vous luttez et vous le faites passer dans tous les sens et par tous les moyens, mais c'est quelque chose qui vous fait peur ?
Disons, quand j'y pense, oui, ça fait un peu peur. Moi, j'ai jamais eu peur de l'avion, mais quand je pense à ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps à la compagnie, je ne sais plus, c'était indonésienne et kenyane, ce sont des problèmes de bêtises algorithmiques ou informatiques. Et puis là, je commence un peu à avoir peur de l'avion. Mais ça va, je dors encore avant qu'il décolle, mais j'ai quand même une petite frayeur.
Bon, bah, continuez à travailler, surtout pour nous éviter nos frayeurs. Longue vie à vos recherches, Rachid Guerraoui. Merci infiniment d'avoir été en duplex avec nous depuis les studios de la RTL. De la radio-télévision suisse. Merci à la technique sur place à Lausanne. Vous revenez bien sûr quand vous voulez, en vrai ou en duplex. Rachid Guerraoui, nous parler de la bêtise des algorithmes et de l'intelligence des mathématiciens et informaticiens altruistes. Je rappelle juste que votre leçon inaugurale, l'algorithmique répartie à la recherche de l'universalité perdue, est publiée aux éditions Fayard Collège de France et que l'intégralité de cette leçon et de tous vos cours sont à voir et à écouter et à suivre gratuitement sur le site du collège. Le lien est sur notre page. Merci Rachid Guerraoui.
Merci beaucoup et très bonne fin de journée.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter sur le site de RFI et à nous podcaster à volonté avec l'appli RFI Pure Radio. Vous pouvez également nous retrouver sur Spotify désormais. Merci de votre curiosité et de votre fidélité, chers amis auditeurs et internautes. Au plaisir de vous retrouver lundi pour de nouvelles interrogations à partager avec Nicolas Benita à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de vos informations.